La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Bon.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Décibel. Décibel qu'on retrouve du lundi au vendredi de 18h30 à 19h. C'est Honorine ce soir à l'animation de cette émission et je suis accompagnée en audioconférence de Jean-François et Jean-Luc. Salut.
Salut à vous.
Bonsoir.
Donc au programme de cette émission, une petite revoyure avec toi Jean-Luc, puisque... Il y a pas mal de temps qu'on a réalisé ensemble des émissions autour d'écrivains ou de paroliers fameux. Mais avant ça, je vous propose un titre de Kramwerk, puisque l'un des cofondateurs de cette formation, Florian Schneider, vient de disparaître. C'est l'occasion pour nous de revenir à la genèse de la musique électronique, puisqu'ils ont sorti en 1969 un album tout aussi fameux qui s'intitulait Radioactivity. On écoute maintenant le titre éponyme de cet album sorti en 1969.
We'll be right back.
acheter. Radioactivité. Strahlt Wellen zum Empfangsgerät.
C'était Radioactivity, issu de l'album sorti en 1969 de Kraemwerk, dont Florian Schneider, l'un des cofondateurs, vient de disparaître. On est toujours dans cette émission décimale avec Jean-François et Jean-Luc. Re-salut à vous. Jean-Luc, il y a pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu, finalement, avec le confinement. Comment tu vas ? Comment s'est passé pour toi le confinement et puis ce début de déconfinement finalement ?
C'est passé vraiment avec le Covid. C'était une période de confinement vraiment axée, je veux dire, j'étais au cœur du virus, entre guillemets, puisque ça commençait par mon fils et puis moi je l'ai eu derrière, j'ai attrapé également le virus. Donc c'était une période assez difficile au final, sans conséquences heureusement. Et voilà. En fait, j'étais confiné, mais avec des suites et en rapport avec le virus directement.
Ce virus, donc, qui est finalement une chronique mondiale, comment tu l'as vécu en toi-même, le fait de l'avoir aussi, peut-être le fait aussi du regard avec les gens, comment ça s'est passé aussi, et puis aussi les symptômes aussi peut-être, comment t'as totalement vécu finalement cette période ?
J'ai vécu une période particulière dans le sens où d'abord c'est mon fils qui l'avait. Et j'avais l'impression que je prenais toutes les mesures pour pas l'avoir. Et donc j'étais inquiet pour lui. Et c'est donc après ça s'est amélioré donc un peu plus tranquille. Et c'est à ce moment-là en fait que je suis tombé malade. Donc et là, effectivement, lorsqu'on a ce virus, au fur et à mesure, on a une forme d'inquiétude en même temps que la toux montait, par exemple. Notamment aux alentours du cinquième jour, puisque en fait, les cinquième, sixième, septième jour, il peut y avoir une aggravation qui est importante et donc qui peut nécessiter une hospitalisation. Donc ce passage-là est délicat, parce qu'on sait qu'on est dans un moment où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, où on passe le cap, ou alors la maladie s'installe, enfin le virus s'installe, et il commence vraiment à faire des dégâts. Donc j'ai eu la chance à un moment donné, alors que justement je commençais à m'inquiéter pour mon état de santé, que ça a basculé du bon côté et j'ai senti qu'à un moment donné il y avait une amélioration, donc j'ai vécu donc après nettement mieux. Mais c'est vrai que durant la période où j'étais dans le doute sans traitement, c'est assez inquiétant. Voilà, c'est assez inquiétant et je pense que ça c'était vraiment un problème.
Ton regard, comment est-ce que tu analyses cette période de pandémie? On a tendance à penser que ça va se reproduire dans les prochaines années également. Est-ce que tu y vois plutôt un événement ponctuel ou alors est-ce que c'est quelque chose…
Est-ce que c'est quand même ma vision par rapport à l'avenir? Est-ce que le virus peut se répéter? Effectivement, il peut y avoir des répliques entre guillemets et des périodes comme la grippe qui revient régulièrement. Et sauf que c'est pas la grippe, maintenant on le sait. Simplement, oui, bon, je pense que c'est possible que ça revienne. On maîtrise encore mal le virus. On fait confiance un peu aux spécialistes, mais on a l'impression que tout n'est pas maîtrisé, quoi. Donc, c'est difficile de répondre. Je pense qu'il faudrait effectivement, à un moment donné, si ça revient, prendre toutes les mesures nécessaires en termes de protection. Après, bon, je pense qu'il y a des pays qui s'en sont sortis mieux que d'autres. Notamment certains pays d'Asie et puis l'Allemagne. Peut-être qu'en anticipant davantage, on peut arriver à quelque chose qui soit supportable et qui n'entache pas non plus l'activité, qu'elle soit économique, culturelle et autre.
Mis à part le fait que tu aies été atteint par ce virus, est-ce que finalement tu as redécouvert des choses, tu as pu lire, tu as pu revenir un peu vers toi-même? Comment ça s'est passé aussi finalement ce temps de confinement, hormis le fait de la présence de ce virus chez toi?
C'est assez changeant en fait les états d'esprit. On a des états d'esprit où on est assez serein, où on est assez tranquille, et d'autres où il y a une forme d'inquiétude qui est là, et une espèce de mal-être par le fait aussi d'absence de liberté en dehors de la maladie. Et moi, j'ai redécouvert une forme de calme. On sort du brouhaha habituel. On peut effectivement réfléchir davantage sur certains sujets. On peut peut-être lire, effectivement. On regarde beaucoup de choses. Puis à certains moments, comme c'est quelque chose qu'on maîtrisait mal avec des annonces qui étaient, parfois contradictoires, l'inquiétude gagnait. C'est des humeurs assez changeantes, mais il y avait des bonnes choses. Peut-être quand même de prendre un peu plus le temps pour certaines activités. Et puis, voilà, je pense que si on était raisonnable, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses dont on pourrait se dispenser, notamment des allers-retours en voiture pour pas grand-chose, et puis espèce de mousse qui est en permanence dans notre société. Et là, on s'aperçoit que la mousse retombe et reste quand même une forme d'essentiel, quoi.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. te prends par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester. Sur un plateau d'argent, elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire, tu n'as pas d'amour pour elle. Elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant, tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Il y avait un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Et quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé et presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant, tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues, il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant, tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une blessure étrange dans ton cœur.
Je voulais parler de quelqu'un que j'ai connu, hein, personnellement, et qui est décédé au mois de février 2020, c'est Graham Allwright. Hein. Donc, il est mort juste avant l'épidémie, et il est mort à l'âge quand même, à un âge de plus de 90 ans, hein. Donc il a eu une vie très remplie. Donc, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, et puis qui a été notamment très connu dans les années 65, 75, 80 encore. Et donc c'est quelqu'un qui a été connu parce qu'il a notamment traduit des chansons de Leonard Cohen, notamment Suzanne, l'étranger, et Demain sera bien, hein. Et aussi Bob Dylan, hein, notamment la chanson qui a tué David Moore et Blowing in the Wind. Il a aussi traduit des chansons traditionnelles américaines, hein, donc du folklore américain, enfin folklore, c'était plutôt déjà une forme de protest song de Woody Guthrie, Pete Seeger ou Tom Paxton. C'était « Emmène-moi jusqu'à la ceinture et sacrée bouteille ». On se rappelle certainement de Jusqu'à la ceinture, hein, notamment, qui était une chanson qui mettait à mal un peu certains commandements militaires et qui avait fait, j'irais, pas mal de bruit à l'époque. Il a été également auteur de la balade de la désescalade. Alors, la balade de la désescalade, j'ai failli effectivement te demander de la programmer parce que c'était, je dirais, une chanson qui est encore d'actualité parce que, en fait, c'est une chanson qui parle, je dirais, de la consommation excessive et on parle de croissance. Croissance à tout prix, et lui déjà à l'époque parlait justement d'une décroissance, un sujet qui est donc qui est resté d'actualité. Donc il était pas un peu en avance à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a été engagé aussi au niveau du Larzac, bah parce que c'était quand même éminemment politique et que bon, il a fait des attaques à l'époque contre le président de la République dans les années c'est des années 75. Et donc, ça n'avait pas plu. Il était anti-militariste, il était contre le nucléaire, il était contre. C'était quelqu'un de très particulier, mais très intègre, hein. Très intègre et très humain, qui a participé à beaucoup d'opérations caritatives. Et il a fait une tournée, notamment avec Maxime Le Forestier, qui justement disait de lui dernièrement dans un journal que c'était vraiment quelqu'un qui était totalement désintéressé et sur les 15 dates qu'ils avaient faites ensemble pour une action humanitaire, il avait laissé tous ses cachets.
Écoutez la balade de la désescalade. Il n'est pas trop tard pour commencer. Plus toutes ces salades qui retardent la venue du jour de clarté. La 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 la. De la désescalade, avis à tous ceux qui veulent monter pour sortir de la panade, des frites et des grillades, un peu moins chaque jour et c'est gagné. La la la. C'est la guerre des nerfs, tous les jours sur cette bonne vieille terre, sur les prairies de la Normandie, les vaches mâchent et les vaches chient, et dans les bistrots du vieux Paris, on en fait autant, avec esprit dans les yeux où le rouge et le jaune se mêlent en commente, les tout dernières nouvelles. Douce sérénade de la désescalade contre la fanfaronnade de l'absurdité, la désescalade. Pourquoi est-ce qu'on tarde? Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? La la la.
C'était un club assez éclectique. Il a notamment fait du théâtre. Et il était allé, c'est là qu'il avait rencontré sa première femme, c'était à Londres. Il était venu de Wellington. Il avait été mousse sur un bateau pour payer le voyage, pour expliquer un peu son itinéraire. Et puis après, il est arrivé en France avec cette femme. Et il a fait du théâtre. Il a fait différentes choses avant de se produire sur scène. Il s'est occupé d'enfants défavorisés. Il a travaillé aussi dans les hôpitaux psychiatriques. On voit en fait quelqu'un d'atypique, puisqu'aussi il a même été, je dirais, apiculteur à un certain moment, parce que il en avait marre aussi de tout ce qui était industrie de la chanson. Et ça l'avait un peu écœuré, et il est parti donc faire autre chose. Bon, il est revenu par la suite, mais un peu plus à sa main, on va dire. C'est quelqu'un qui voulait sortir un peu des carcans habituels.
Et dans quel cadre tu as pu le rencontrer plusieurs fois
Je l'ai rencontré plusieurs fois parce que j'étais avec mon frère et on l'avait, nous, repéré, je veux dire, et on voulait le rencontrer parce qu'on trouvait que c'était un artiste très singulier. Et puis, on avait dans l'idée de monter un concert, notamment pour une association qui s'appelle Enfance et Partage, dont Graham Allwright était l'un des membres. Et donc, il s'intéressait très fortement à cette association. Et donc, il nous a reçus chez lui. On a passé l'après-midi avec lui. On a parlé de l'association. On a parlé de plein de choses, en fait. Il nous a reçus pendant 3h30. C'était assez curieux parce qu'on était dans une pièce, un salon. Et puis, il nous a servi le café. Enfin, on a discuté pendant 3h30 avec lui, quoi. C'était assez surprenant.
À présent, tu vas nous proposer la lecture d'un texte, Jean-Luc ?
Alors oui, je vais te présenter un texte, Honorine, que j'ai écrit, qui s'appelle « Voleur d'émotions ». Il cambriole les cœurs, il cambriole les corps. Voleur d'émotions, il n'ira jamais en prison. Il s'introduit chez elle, toujours sans effraction. C'est par la douceur qu'il obtient leur reddition. Et puis l'amour consommé, il prend la tangente, laissant désespérer ses petites amantes. Il cambriole les cœurs, il cambriole les corps, quelle que soit l'heure, il fait ça sans effort. Il embrasse, il caresse, pirate de l'amour, chaque femme est un galion qu'il pille sans détour. Qu'elle se dise réaliste, qu'elle soit fleur bleue, il sait bien, lui, le spécialiste, nourrir le sentiment amoureux. Il détruit leurs illusions, il les passe au pilon. Non, rien ne lui fait peur. C'est un gangster du cœur. Il cambriole les cœurs, voleur d'émotions, il n'ira jamais en prison. Délinquant de l'amour, une proie sur son chemin, il fera patte de velours, et de son cœur il fera un festin. Il cambriole les cœurs, il cambriole les corps, quelle que soit l'heure, il fait ça sans remords.
Merci Jean-Luc. Tu es poète à tes heures perdues. Dans quelles circonstances tu as écrit ce texte que tu viens de nous interpréter ?
J'avais envie d'écrire ce texte parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui est parfois difficile, et notamment les rapports amoureux entre les gens, c'est toujours compliqué, ça a toujours été compliqué. Mais je dirais que ça l'est peut-être encore un peu plus avec des moyens de contact, les moyens de contact actuels, les réseaux sociaux, les sites de rencontres et compagnie. Et il y a aussi une espèce de personnages qui se promènent, à mon avis, ce qu'on peut entendre, de gens qui sont sans scrupules et qui sont des pilleurs de cœur, voilà.
C'est sur ces mots que se termine cette émission Décibel. Merci Jean-Luc et merci Jean-François d'être, d'être passé dans cette émission Décibel en audioconférence.
Merci Honorine et merci Jean-François.
Merci.
Et au plaisir.
Salut.